Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens simplement par commencer par vous demander pardon, parce que non seulement nous sommes arrivés en retard, et en plus, on était loin d'être discrets lors de notre arrivée, et en plus, c'est pas comme si j'avais l'excuse de venir de Grenoble, comme Mickaël l'a dit, parce que effectivement, nous habitons à Grenoble avec Noémie, mon épouse et nos deux enfants. Et nous servons là-bas dans une petite église en implantation proche du campus universitaire. Mais nous venons ce matin de Beauvallon, un petit village pas loin d'ici, dans lequel j'ai grandi. Donc c'est pas comme si je venais de loin ou que je ne connaissais pas la région. J'ai fait mon lycée à Die, donc voilà, le Diwa est un lieu qui m'est connu et qui m'est cher. On va poursuivre notre lecture de l'Épître aux Éphésiens dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est de la paix et de l'amour. Peace and love. Peace and love. Cette phrase devenue célèbre grâce au mouvement hippie, grâce à la génération Woodstock, dont peut-être une partie d'entre vous faites partie, c'est l'expression parfaite pour décrire ce que nous recherchons tous d'une manière ou d'une autre. Elle exprime un idéal dont nous rêvons, un monde tant désiré, caractérisé par la paix, la tranquillité au lieu des conflits, des guerres, de la violence, et par l'amour au lieu de la haine, du racisme, des injustices, de l'amertume, des moqueries, du harcèlement, etc. C'est vrai, que rêver de mieux que du peace and love? Alors certains ont cru pouvoir vivre cette réalité à l'échelle d'un pays, d'une ville, d'autres encore d'une communauté ou d'une famille. Certains, devant la désillusion que c'était impossible à vivre en groupe, en sont venus à la conclusion qu'il fallait trouver la paix et l'amour dans son fort intérieur, après un long cheminement spirituel dans les profondeurs de l'esprit et de la pensée. Mais qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? Avez-vous personnellement, vous qui êtes ici, trouvé votre peace and love? Avez-vous trouvé le groupe, la technique, la structure pour arriver à cet idéal tant recherché et tant désiré? Eh bien, moi, oui, je l'ai trouvé. C'était un mystère bien caché, mais je l'ai enfin trouvé. Est-ce que vous voulez que je vous le montre? Alors, vous allez faire l'exercice avec moi. Peut-être ça va nous aider un peu à rester concentrés et éveillés malgré cette chaleur étouffante. Ça va nécessiter un peu de préparation et vous allez voir, ça ressemble un petit peu à des étirements. Alors, ne fermez surtout pas les yeux et vous allez devoir, en restant assis là à votre place, tourner la tête à gauche en gardant les yeux bien ouverts, à droite, et maintenant la partie la plus difficile, regardez derrière vous, les yeux bien ouverts. Voilà. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé votre peace and love?
Non.
Alors, les amis, pas besoin de chercher bien loin. Le groupe réunit ce matin dans cette salle, la communauté que vous formez, c'est ça l'idéal, tant recherché, tant désiré, c'est ça la paix et l'amour. Et je ne sais pas comment vous réagissez à cette idée, mais je peux imaginer vos réactions selon votre situation. Si c'est la première fois que vous vous réunissez avec des chrétiens, vous êtes peut-être intrigué à ce que je viens de dire, mais je pense que vous êtes surtout dubitatif. Encore des gens qui se croient supérieurs aux autres, encore des utopistes complètement aveuglés, endoctrinés. Et si c'est votre cas ce matin, prenez le temps d'en écouter un peu plus. Ne partez pas tout de suite, faites un bout de chemin avec cette église pour voir si ce que je dis est vrai ou pas. Si vous cheminez déjà dans cette église depuis quelque temps, vous vous dites peut-être « Mais oui, il a raison, c'est ça que je cherchais depuis si longtemps. » une communauté accueillante, aimante, où les gens sont bienveillants, où les gens cherchent la paix entre eux en permanence. Ils prient les uns pour les autres, ils partagent leurs biens, leur temps, leurs ressources. Et si ça fait longtemps que vous êtes chrétien et que vous êtes membre d'une église, vous vous dites peut-être « Oula, jamais l'idée d'associer l'église avec paix et amour ne me serait venue à l'esprit. » Lui, ça se voit qu'il n'est pas au courant de l'état de ma relation avec Hélène, de la lourdeur de Damien, des explosions de colère de Jean-Christophe, d'Antoine qui arrive toujours en retard. S'il y a bien un endroit où je ne vois pas beaucoup de paix et d'amour, c'est bien dans l'église. Bon alors, pourquoi Antoine, tu t'es permis cette association incongrue entre l'église et Peace and Love? Eh bien, si je me suis permis de le faire, c'est parce que la Bible le fait. Et non seulement elle le fait, mais en plus elle affirme que le secret du Peace and Love, le secret de la paix et de l'amour, c'est l'église. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou à la garder ouverte en Éphésiens. Et après avoir parcouru Éphésiens 1 et 2, nous allons lire le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. Et pour ceux qui ont une Bible blanche comme la mienne, c'est à la page 767. Et je vais lire Éphésiens 3. Et j'aimerais, juste avant de lire, prier encore. Notre Dieu, avant de continuer notre lecture dans cette lettre aux Éphésiens, nous te demandons de disposer nos cœurs, d'ouvrir les yeux de notre cœur à ta parole. Aide-nous à t'entendre ce matin et surtout à t'écouter. Parce que nous savons que tu parles, nous savons que ta parole est utile pour nous encourager, nous exhorter, nous reprendre et pour nous former à toute bonne œuvre. Mais Seigneur, les distractions de nos pensées, les distractions de notre cœur, la chaleur, la fatigue, peut-être nous empêchent de t'écouter. Alors, dispose-nous encore maintenant à t'entendre. Amen. Lisons Éphésiens chapitre 3. « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux, et participe à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors un mot qui est répété plusieurs fois dans notre passage, c'est le mot « mystère ». Qu'est-ce que ça veut dire ce mot « mystère » ? Eh bien, Paul, dans ce passage, va nous expliquer ce que c'est ce mystère, mais il nous dit aussi pourquoi il appelle ça un mystère. Regardez au verset 5. Le mystère, c'est quelque chose qui n'était pas très clair dans le passé, mais qui a été révélé d'une manière claire, précise et sans ambiguïté à Paul et à ses collègues. C'est comme un peu voir dans un premier temps les plans de la tour Eiffel et puis de la voir en vrai. C'est comme voir une photo des trois becs et d'aller sur les trois becs pour les voir et les contempler. On ne comprend pas à quel point c'est incroyable tant qu'on ne l'a pas vu en vrai. C'est ça un mystère pour Paul. Alors c'est quoi ce mystère ? Eh bien c'est le verset suivant qui nous le dit, le verset 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce mystère, ce n'est pas seulement la réunification de deux groupes, ce n'est pas seulement la réunification des rouges et des jaunes dans Koh-Lanta, par exemple, ce n'est pas seulement la capacité de deux ethnies, de deux cultures à cohabiter dans une même communauté, c'est bien plus profond que cela. En fait, il faut réaliser que pendant des centaines d'années, l'accès à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, l'appartenance au peuple de Dieu, au temple, la possibilité d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés ou par louange à Dieu, tout ça c'était réservé qu'aux Juifs, qu'aux membres d'une seule famille qui est devenue un seul peuple. Impossible pour les membres des autres nations, des autres peuples, de pouvoir entrer en alliance avec Dieu, servir Dieu, être dans la présence de Dieu, et donc impossible de recevoir le salut proposé par Dieu, sauf d'une seule manière, en devenant un membre du peuple juif, en se faisant circoncire, en recevant les rites de purification pour être capable de s'approcher de Dieu. Et quand on commençait à s'intéresser à Dieu, au Dieu des Juifs, on pouvait venir au temple, on pouvait venir dans le lieu de la présence de Dieu, mais il y avait des bancs réservés pour vous un peu plus loin que dans la salle principale. C'est comme si, lors de notre rassemblement aujourd'hui, il n'y avait qu'un cas à l'entrée qui triait les personnes. Toi, tu es juif ? Eh bien, shalom, mon frère, entre, viens t'asseoir ici. Et toi ? Eh bien, peut-être tu peux nous regarder, te mettre un peu derrière les fenêtres là, et nous regarder quelques instants, mais pas trop longtemps. Et encore, nous ce matin, on ne croit pas que cette salle est un endroit où Dieu est présent particulièrement plus que dans un autre endroit, alors que c'était le cas à l'époque. Vous imaginez les centaines d'années d'habitude ancrées dans les mentalités à distinguer entre juifs et non-juifs, entre purs et impurs. Et là, Paul nous dit que maintenant, et on l'a lu encore dans Éphésiens 2, l'accès à Dieu est pleinement ouvert. Verset 12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On assiste à un élargissement extraordinaire de l'accès au Dieu des Juifs, autrefois si difficile, si limité, même pour les Juifs. Non, en Christ, simplement en mettant notre foi en lui, en reconnaissant qu'il est le roi de l'univers et qu'il est mort et ressuscité pour porter nos fautes, nous pouvons avoir un libre accès à Dieu, qui devient alors notre Père. Et ça, eh bien ça c'est une réalité absolument époustouflante. Et c'est une réalité qui est au cœur du message de la Bible. C'est la possibilité de nous approcher de Dieu, ce Dieu duquel on est si loin par notre rébellion et dont l'accès nous est impossible parce qu'il est parfaitement saint et pas nous. Et grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, en reconnaissant publiquement de notre bouche qu'il est le Seigneur, en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité, et ben on peut tous maintenant, en toute simplicité, nous approcher de Dieu, car le sang de Christ nous purifie. Mais nous rend saints. Et on apprend dans ce passage que ce mystère de la paix entre juifs et non-juifs, eh bien, se manifeste d'une manière précise. Ce mystère, dont Dieu est l'auteur, verset 9, dont Christ est le médiateur, verset 11, dont l'Esprit est le révélateur, verset 5, dont nous sommes les objets, verset 6, ce mystère qui est reçu et proclamé par Paul, où est-ce qu'il se manifeste ? Dans l'Église, verset 10. Regardez. Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par le moyen de l'Église que tout le monde, même les autorités célestes, les anges, les puissances du mal, connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les autorités célestes ont les yeux rivés sur vous. Et ils se disent, waouh, celui qui a fait ça, celui qui a voulu ça, est absolument incroyable et d'une sagesse infinie. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Ce que Dieu a fait en vous permettant d'être héritier des mêmes promesses que les Juifs, de former un même corps, une même famille avec eux, pour adorer Dieu tous ensemble. Et la paix qui est maintenant possible, c'est le moyen ultime pour que l'univers entier soit témoin de toute la sagesse et la puissance de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de la valeur de l'Église pour Dieu ? Et alors que les Éphésiens pouvaient peut-être croire qu'ils étaient des croyants de seconde classe, parce qu'ils n'avaient pas d'arrière-plan juif ou religieux, eh bien Paul les rassure en leur affirmant que non, ils sont au même titre que les chrétiens juifs, membres de la famille de Dieu. Le Père de qui toute famille tient son nom, verset 15. Et ils sont tout aussi importants pour Dieu. Regardez comment Paul veut leur donner un électrochoc au verset 13. Il leur dit, c'est pour vous, les amis, que je suis en prison. C'est pour votre Église. Voilà votre gloire. Je suis prêt à souffrir pour vous, les amis. C'est la preuve de votre valeur. Alors ne croyez pas que vous êtes d'une importance secondaire, que votre Église est insignifiante. Et ne négligez pas votre Église. Je paie le prix fort pour vous. Et c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, si nous plaçons notre foi en Christ, nous appartenons à l'Église, quel que soit notre passé, notre religiosité, notre niveau intellectuel, nos origines ethniques ou culturelles, notre connaissance de la Bible ou de la culture chrétienne, nos difficultés avec tel ou tel péché, ou encore nos convictions théologiques différentes des autres croyants. Nous comptons pour Dieu. Et notre Église, votre Église, compte d'une manière qu'on ne peut pas imaginer pour Dieu. Alors, la question que je nous pose ce matin, c'est est-ce qu'elle a la même valeur pour nous, l'Église ? Est-ce que nous avons conscience que c'est en vivant l'Église que nous participons au fait de révéler la sagesse infinie de Dieu ? Eh bien, moi, je vous confesse que pas toujours. J'ai même parfois l'impression que c'est l'inverse. Et peut-être vous vous dites aussi que c'est en faisant partie de l'Église universelle qu'on peut vivre cela. Et si c'est le cas, je vous invite simplement à continuer la lecture de l'Épître aux Éphésiens et à réfléchir comment les commandements de Paul peuvent s'appliquer sans appartenir activement à une Église locale. Pour Paul, faire partie de l'Église universelle sans être membre d'une communauté locale n'est jamais considéré comme une possibilité. Et pas seulement pour Paul, en fait, mais pour tout le Nouveau Testament. Et je vais même aller plus loin en disant que celui qui déserte l'Église ne peut pas réellement être en Christ puisqu'il ne se trouve pas parmi les autres membres du corps de Christ. Je lisais il y a quelques semaines un auteur qui disait que les autostoppeurs ecclésiastiques, les vagabonds religieux, les cavaliers solitaires font une grave erreur. Alors je ne dis pas qu'aucun d'entre eux ne sont sauvés, mais qu'ils font une grave erreur en refusant de participer à cette manifestation éclatante de la sagesse de Dieu. Alors si l'Église a la même place dans notre cœur que ce que Paul nous dit, ça a quelques implications. pour nous. Il nous faut nous discipliner pour être présent, pour vivre l'Église, être présent de façon régulière. Notre Église est implantée dans un contexte universitaire, et je ne sais pas si vous savez comment on fait pour connaître l'importance d'un cours pour des étudiants dans la scolarité d'un étudiant à la fac. Il suffit d'aller voir dans l'amphi dans lequel a lieu le cours et de compter le nombre de places vides. Si les étudiants vont au ski le jeudi après-midi au lieu d'aller en cours, c'est facile de savoir ce qui compte le plus pour eux. Et quand on fait de notre église locale notre priorité, quand on prend conscience de son importance, on sait modifier, agencer notre agenda pour être présent et pour vivre effectivement l'église locale. Il nous faut aussi tout faire pour être membre d'une église, en disant « Je m'engage à être responsable de prendre soin de vous, et vous, et je reconnais que vous êtes responsable de prendre soin de moi. » En disant « J'accepte de me soumettre volontairement aux décisions et à l'autorité de mon église et de ses responsables, et à servir mes frères et sœurs, et à me laisser instruire, reprendre, enseigner par eux. » Un autre moyen de savoir ce qui est la priorité dans notre vie, c'est de regarder notre compte bancaire, vous le savez. Et si l'Église est dans les priorités de notre vie, eh bien, nous devons la soutenir financièrement. Et ensuite, je pense que ça a aussi des implications en ce qui concerne notre engagement concret dans l'Église, la vie de l'Assemblée, les services, l'annonce de l'Évangile, la prière pour notre Église, l'amour pour notre Église. Est-ce que quand vous pensez à votre Église, vous l'aimez ? C'est souvent une bonne manière d'apprendre à aimer notre Église, nos frères et sœurs de l'Église, c'est de prier pour eux. Et j'aimerais terminer cette partie en nous demandant si on a conscience de la place qu'a notre Église, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux du monde. Est-ce qu'on a conscience que le simple fait de vivre l'Église, et on a vu que ce n'est pas une chose simple ou facile, ça implique beaucoup, mais que le simple fait de vivre l'Église, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour briller dans le monde et se faire connaître. Alors ne cachons pas ce qu'on vit en Église autour de nous. Cherchons à le rendre visible, soyons honnête sur ce qu'on fait le dimanche, quand on raconte notre week-end autour de la machine à café, sur nos activités en semaine, sur nos temps en un avec un frère ou une sœur, nos visites les uns chez les autres. Et n'hésitons pas à mettre en relation nos amis non chrétiens avec nos frères et sœurs de l'Église. Nous, avec Noémie, on a souvent l'occasion de le faire dans le parc ou dans les espaces parents-enfants, mais il y a plein de moyens de le faire selon votre situation. Alors voilà, comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu ? Par le moyen de l'Église. C'est tellement puissant, tellement puissant. Mais on a besoin de se le rappeler. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'une part, honnêtement, c'est assez insignifiant. C'est vrai, quand on se regarde comme ça, on n'a pas forcément l'impression de vivre ce que Paul est en train de dire. Et d'autre part, parce que tristement, malheureusement, ce n'est pas effectivement cette paix et cet amour parfait qui devrait nous caractériser, qu'on voit toujours. Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et je suis moi-même témoin ou acteur de choses qui ne devraient pas avoir lieu dans l'Église et qui ne contribuent pas à la paix ou à l'unité. Mais il faut se dire que l'Église, c'est comme la Sagrada Familia. Est-ce que vous connaissez la Sagrada Familia ? Alors, j'ai prévu un diapo avec une image. Ah, ça fonctionne ! La Sagrada Familia, c'est ça. Le monument le plus visité d'Espagne, à Barcelone. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. C'est un chef-d'œuvre architectural absolument extraordinaire. Peut-être vous serez d'accord avec moi. Mais en fait, qui est étonnant avec ce monument, c'est que plus on s'approche, plus on s'en approche, plus on est déçu. Parce que la raison, elle est simple, c'est parce qu'en fait, il est encore en travaux depuis plus de 100 ans. Et quand on est à côté, ce qu'on voit, ce sont des grues, des échafaudages, des murs salis par la pollution et par les pigeons. Alors que quand on regarde les plans du bâtiment, on est juste époustouflé. Quand on le voit en vrai, on est un peu déçu. Et c'est le cas, non pas parce que l'architecte ou les ouvriers ne sont pas bons, mais parce que c'est encore en travaux. Effectivement, il y en a peut-être sur la Sagrada Familia. Mais ça n'empêche pas des milliers de personnes de visiter jour après jour ce chef-d'œuvre. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. Nous sommes individuellement et collectivement en travaux. Mais nous sommes déjà le chef-d'œuvre de Dieu. Et les dominations et les autorités sont déjà témoins de la sagesse infiniment variée de Dieu en nous contemplant. Et il est bien important de garder en tête cette tension que l'Église est déjà le chef-d'œuvre de Dieu, comme la Sagrada Familia est déjà le chef-d'œuvre de Gaudi, pour ne pas passer à côté de sa valeur. Mais en même temps, eh bien, il faut nous souvenir que l'Église est encore en travaux. Elle est en construction, et ça explique tout ce qu'on vit de mauvais au milieu de l'Église. Ça explique parfois les divisions, l'absence de paix qu'on peut connaître parfois. Mais un jour, nous savons que les travaux seront totalement finis. Et là, la majesté de l'Église sera pleinement dévoilée. Et nous vivrons pour l'éternité cette belle réalité d'être unis avec les membres de tous les peuples, toutes les nations, toutes les époques, autour de Dieu dans une harmonie parfaite, sans haine, sans groupe marginalisé, sans péché. Alors, nous sommes en travaux en ce qui concerne la paix, et nous verrons plus en détail des conseils pratiques si nous parcourons la suite de cette lettre aux Éphésiens en ce qui concerne la paix, mais nous sommes également en travaux en ce qui concerne l'amour. Et c'est notre deuxième et dernière partie qui sera plus courte. Et voilà en fait pourquoi Paul se met à prier pour l'Église dans la deuxième partie de ce chapitre. Il demande une chose, que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit dans notre être intérieur. Autrement dit, que Christ habite dans notre cœur par la foi. Pourquoi ? Parce que si Christ habite en nous, nous serons non seulement capables de comprendre, mais aussi d'expérimenter un amour pour nos frères et sœurs de l'Église, tellement immense, tellement large, long, profond, haut, que cet amour ne sera pas limité par nos différences. Quand Jésus-Christ demeure en nous par le Saint-Esprit, nous comprenons à quel point son amour est grand et à quel point ses bras sont largement ouverts, et largement assez grands ouverts pour englober des gens de toute nation, de tout milieu, tellement différents les uns des autres. Et nous sommes rendus capables de vivre ce même amour dans l'Église. Cette prière de Paul nous apprend que nous ne pouvons pas vivre cette institution surnaturelle qui est l'Église sans un amour surnaturel. Et Paul nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit au plus profond de nous pour vivre cet amour. On ne doit pas essayer de le faire avec nos propres forces, mais dans une dépendance constante, dans la prière, de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Sinon, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance parce que toutes les institutions humaines qui ont essayé n'ont jamais fonctionné. J'ai vu plusieurs reportages il y a quelques temps sur les écolieux. Je ne sais pas si vous connaissez ces endroits. Il y en a beaucoup dans le Diwa. Ce sont des villages ou des fermes où une petite communauté se forme pour essayer de vivre le plus proche de la nature possible, en dehors du système et souvent sans hiérarchie. Et la promesse de ces lieux est grande. Vivre en harmonie les uns avec les autres, en servant la communauté chacun avec son savoir et son savoir-faire, dans le partage, pour pouvoir vivre heureux et sans contrainte. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ce genre de communauté rassemble des gens très proches en termes de culture, de valeurs, de consommation, d'idées politiques, de loisirs, etc., etc. Mais pour autant, et c'est ce que j'ai vu dans plusieurs reportages, c'est souvent la catastrophe en fait. ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne marche pas mieux que n'importe quel autre groupe humain. Ils essaient de mettre en place des groupes de parole, etc., etc., de mettre en place des techniques pour la résolution de conflits, mais rien n'y fait. Parce que l'amour qui leur est possible de vivre n'est pas plus grand. Leur ressource est autant limitée que n'importe qui. Alors que dans l'Église, les amis, c'est complètement différent. Et j'espère que ça se voit quand on vit l'Église. Dans l'Église, quand on est confronté à une difficulté pour aimer les autres, parce que sa culture, peut-être, me paraît tellement bizarre, ou parce que j'aimerais tellement lui ressembler que ça me rend jaloux, ou parce que chaque fois que je suis en sa présence, je me sens mis de côté, ou parce que j'ai l'impression qu'il me copie, ou parce que j'ai pas senti son soutien quand j'ai eu besoin d'aide ou de présence. Eh bien, Paul nous appelle à ne pas prendre sur nous, serrer les dents en espérant que ça passe, à ne pas aller non plus aller au clash, ou à ne pas cultiver l'amertume. Non, Paul, dans ce passage, nous invite à plier le genou devant Dieu et lui dire « Seigneur, je n'ai pas en moi-même les ressources pour aimer, pour pardonner, pour persévérer dans l'unité avec mes frères et sœurs. » Mais toi, tu as donné ta vie pour des gens qui t'ont craché au visage, qui t'ont cloué sur une croix ou qui ont été indifférents à ta personne. Alors demeure pleinement en moi, Seigneur, et règne pleinement sur ma vie, mes pensées, mes relations, afin que je puisse aimer, pardonner, persévérer dans l'unité avec mes frères et sœurs, et que jamais, jamais je ne doute que ton amour n'est pas assez grand pour aimer mes frères et sœurs, mais également pour accueillir mon voisin musulman, ma camarade de classe complètement athée, ou ma grand-mère de tradition catholique qui n'a jamais mis sa foi en toi. Tu peux les sauver, et tu peux te servir de moi et de l'Église pour le faire. Voilà ce que ça change. Que l'Esprit-Saint soit au milieu de l'Église et qu'on en dépende pleinement dans la prière, comme le fait Paul. Alors nous devons conclure. Paul nous a appelés à vivre l'Église parce que c'est le secret du Peace and Love. Il nous a montré comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu en nous disant que c'est par le moyen de l'Église, en raison de l'œuvre de Christ. Et il termine sa prière par deux versets formidables. Je ne sais pas si vous les avez remarqués. Alors que nous, on se dit, non, Paul, ok, ça pouvait peut-être marcher pour les Éphésiens, tout ce que tu viens de nous dire. Mais ça se voit que tu ne connais pas ma vie ou que tu ne connais pas mon Église. C'est impossible que je me réconcilie avec cette personne. C'est impossible que j'aime cette personne ou ce groupe de personnes. Et c'est impossible que mon Église puisse vivre un jour cette paix et cet amour. Eh bien, Paul anticipe notre réaction et nous dit, versets 20 et 21, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Alors, chers frères et sœurs, Dieu peut, quelle que soit votre situation ou la situation de l'Église, faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance de l'Esprit qui agit au milieu de nous. Tu penses que la réconciliation ou l'unité est impossible? Eh bien, Dieu peut le faire. Tu as déjà demandé de ne plus avoir d'amertume ou de mauvaises pensées envers cette personne dans l'Église, eh bien Dieu peut faire infiniment plus que cela. Il peut restaurer la paix, donner un amour débordant pour cette personne. Et parce que c'est de cette manière qu'il manifeste sa gloire dans l'Église. Et ce n'est pas vrai que pour les Éphésiens, mais de génération en génération et au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Donc pour nous aussi. Alors j'espère que ces paroles nous encourage. Elles m'ont encouragé personnellement à avoir plus de foi en ce qui concerne les situations que je traverse, et à chérir avec beaucoup plus d'affection l'Église qui est la manifestation grandiose de la sagesse infinie de Dieu, son chef-d'œuvre en construction, sa Sagrada Familia. Que ce chapitre vous encourage. Merci.